Alors voilà, il fait beau, nous sommes en plein milieu de l'été. Alors bien sûr, l'été, c'est le temps des vacances, les plages dorées, le soleil, le bronzage et tout ça. Mais c'est aussi la saison des festivals musicaux en plein air. Ces festivals de musique rock, jazz ou musique électronique qui attirent des foules chaque année plus nombreuses. Alors l'année passée, la semaine passée, j'ai vu à la télévision, au journal télévisé, des images d'un festival qui s'est déroulé donc le week-end passé. Et j'étais interpellé tout d'abord par le nom de ce festival, le nom qu'on lui a donné. Tomorrowland. Tomorrow, demain, land, le pays de demain, le monde de demain. Alors j'ai été aussi un peu interpellé par le décor, l'ambiance qui régnait, un mélange de Disneyland, d'Ibiza, vous savez, cette île où on aime bien de faire la fête en Espagne, hein. Un peu de carnaval de Rio aussi, parce que les gens se déguisent. Enfin, aussi beaucoup de joie, beaucoup d'insouciance, beaucoup d'exubérance, des tenues excentriques, des déguisements, parce qu'à Tomorrowland, tout est permis. Alors l'idée de ce festival, c'est de reconstituer le monde de demain, mais tel qu'on le voudrait, tel que eux le voudraient. L'esprit de ce festival, c'est que le monde de demain sera un monde où régnera la joie, les plaisirs, la paix, la liberté. Moi, ça m'a fait penser, ce nom de Tomorrowland, ça m'a fait penser aussi à tous ces pays décrits dans les livres pour enfants. Vous savez, par exemple, Alice au pays des merveilles, hein? Wonderland, le pays des merveilles. Le pays imaginaire de Peter Pan, où les enfants ne grandissent jamais. Et surtout, ça me rappelle le pays des jouets de Pinocchio. Pinocchio, il a un mauvais camarade qui n'aime pas du tout l'école, hein. Et alors, il lui dit, ce mauvais camarade, il lui dit, je vais partir ce soir, est-ce que tu veux venir avec moi? Ah ben où ça? Ah ben au pays des jouets. Ah ah, mais je ne peux pas, hein. Et alors, le camarade lui dit, tu as tort, Pinocchio. Si tu ne viens pas, tu t'en repentiras, crois-moi. Car où trouver un pays aussi idyllique pour nous autres les enfants? Il n'y a ni école, ni maître, ni livre. Dans ce pays béni, il n'y a rien à apprendre. Ici, le jeudi est un jour de congé. Eh bien, dans ce pays, la semaine se compose de 6 jeudis, plus le dimanche. Les grandes vacances commencent le premier de l'an et finissent à la Saint-Sylvestre. Voilà un pays qui me convient parfaitement. Tous les pays civilisés devraient lui ressembler. Et que fait-on ces journées au pays des jouets? On joue, on s'amuse du matin au soir. Le soir, on va au lit et le lendemain recommence. Alors vous me dites peut-être, oui, mais ça, c'est des histoires pour enfants. Mais quand je vois le comportement de ces personnes, ben, comment appeler ça autrement que des enfants? C'est peut-être des grands-enfants, mais c'est des enfants quand même. Alors peut-être le pays de Peter Pan, le pays de imaginaire où les enfants ne grandissent jamais, ben, peut-être qu'il existe, hein? Parce qu'il y en a qui grandissent par les centimètres, par la taille, mais pas en maturité. Parce qu'il faut vraiment être un grand enfant pour s'imaginer que demain, cela va être cela. Et alors je regardais ces images à la télévision et je me disais, il faudrait que quelqu'un monte sur la scène, qu'il s'empare du micro et qu'il dise à tous ces gens, pardon, pardon de gâcher toute cette ambiance festive, mais il faut absolument que je vous dise que le monde de demain, tomorrow, ça va pas être ça du tout. Mais alors là, pas du tout, et vous risquez d'être drôlement déçus. Bien sûr, tout le monde souhaite un avenir meilleur, souhaite que demain le monde soit meilleur. Mais n'est-ce pas une illusion, une utopie? Parce que aujourd'hui, même les plus optimistes, même ceux qui ne versent pas facilement dans la sinistrose, reconnaissent que nous allons connaître des temps difficiles. Les prévisions des scientifiques sont alarmantes, et cela dans tous les domaines. Quand je dis les plus optimistes, dans ce que j'ai lu, les plus optimistes, ce sont ceux qui disent « Oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais on va s'en sortir. » C'est ça les plus optimistes. Hein. Alors, ils prévoient que nous allons devoir résoudre de nombreux problèmes et dans beaucoup de domaines. Problèmes environnementaux, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, pollution de toutes sortes, problèmes liés aux dangers nucléaires. Souvenez-vous, Fukushima, il n'y a pas longtemps, hein, et avant ça, il y avait eu en Russie, j'ai oublié le nom, Tchernobyl. Problèmes économiques et sociaux. Comment allons-nous faire pour nourrir une population de plus en plus nombreuse? Déjà actuellement, alors que le monde n'est pas encore... Il y a encore une grande partie du monde qui est sous-développée. Bien déjà maintenant, nous épuisons une grande partie des capacités de la planète. Nous consommons plus que la planète ne peut donner. Et demain, eh bien, toutes ces populations qui vont se développer, elles ne vont plus se contenter d'un bol de riz. Hein? Bon, et c'est normal. Comment allons-nous faire pour nourrir et subvenir aux besoins de tous ces gens? Comment donner à tous de l'emploi? Hein? Il y a aussi les crises financières. Hein? Comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher les spéculations qui ont des conséquences catastrophiques? Il y a des problèmes géopolitiques. Comment éviter les conflits, par exemple en Ukraine? Voilà, des problèmes entre les nations. Alors vous ajoutez à ça le terrorisme, la violence, la haine raciale ou religieuse, la drogue, l'alcool, etc., etc., etc. Bref, le monde de demain, Tomorrowland, ne sera pas une partie de plaisir, contrairement à ce que s'imaginent ces festivaliers. Par contre, le monde de demain nous est décrit avec justesse, avec vérité, dans la parole de Dieu. Alors le monde de demain, il sera coloré, c'est vrai, mais il sera caractérisé par quatre couleurs. Le blanc, le rouge, le noir et le vert. Alors ce ne sont pas les couleurs d'un drapeau, ce sont les couleurs des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Dans Apocalypse au chapitre 6, nous allons lire les 8 premiers versets. Ce passage nous décrit d'une manière imagée, symbolique, ce qui va se passer lors de la grande tribulation. Chacun de ces cavaliers représentant un fléau qui va s'abattre sur le monde demain. Tomorrow. Alors les événements qui vont être décrits ici, ça se passe déjà maintenant, ça commence déjà à se passer maintenant. Mais ce n'est que le début, nous dit Jésus. Par exemple, dans Luc au chapitre 21, nous allons le lire tout à l'heure, le chapitre 21. Ce n'est que le début, ce ne sont que les préludes de ce qui doit arriver. Mais ces événements vont atteindre leur paroxysme lors de la grande tribulation, lorsque les quatre cavaliers de l'Apocalypse seront lâchés sur le monde. Alors dans Apocalypse 6, pour situer le contexte, c'est difficile dans Apocalypse de situer le contexte, mais il est question d'un livre qui est fermée par 7 sceaux, et d'un agneau qui représente le Christ, qui est seul habilité à ouvrir ces sceaux. Et nous allons lire l'ouverture des 4 premiers sceaux. Alors, Apocalypse 6, versets 1 et 2, ouverture du premier sceau, le cavalier blanc. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens et vois. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors ce cavalier blanc, ce n'est pas le chevalier blanc, ce n'est pas un héros. C'est une sorte de conquérant qui va de victoire en victoire, qu'il obtient peut-être par la force, mais peut-être aussi par la négociation, par la ruse. Il y a beaucoup d'interprétations de ce cavalier blanc. Moi, personnellement, je vois, pour moi, il représente la soif du pouvoir, la soif de domination, la soif de posséder, cette soif qui va se répandre dans le monde entier et qui va créer aussi beaucoup de problèmes. Il représente aussi le pouvoir qui va être peu à peu concentré sur peu de gens et peut-être finalement un seul. C'est peut-être en finalité, une seule personne qui détiendra tout le pouvoir. Toutes les nations seront soumises à ce pouvoir. Vous pouvez déjà constater aujourd'hui, par exemple dans le domaine financier et industriel, le regroupement de toutes ces industries ou bien de toutes ces banques comme ça. Vous avez un bel exemple avec la sidérurgie, Avant, il y avait des dizaines et des dizaines de sidérurgies de par le monde et chacun avait son directeur qui prenait les décisions. Et puis, par exemple, Mittal, aujourd'hui, c'est lui qui détient tout le pouvoir. C'est lui qui décide pour tout le monde. Et on assiste de plus en plus à cette concentration de pouvoir. Il y a aussi un exemple dans la vie politique et économique, par exemple, la communauté européenne, de plus en plus, les nations cèdent une partie de leur pouvoir à un pouvoir centralisé qui est centralisé dans la communauté européenne. Alors, versets 3 et 4, ouverture du deuxième sceau, le cavalier rouge. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval roux, rouge ou roux selon les traductions. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Alors voilà le cavalier rouge. Il n'est pas difficile à interpréter, puisque cette couleur rouge évoque le sang qui va couler à cause des guerres, à cause aussi de la folie sanguinaire des hommes. Il aura le pouvoir de déclencher des guerres et des massacres. Déjà aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un nombre incessant de conflits de par le monde. Nous voyons aussi toutes ces attaques terroristes. Nous voyons aussi toutes ces tueries perpétrées par des gens qui deviennent fous et qui se mettent à tuer comme ça, n'importe comment, n'importe qui. Versets 5 et 6, ouverture du troisième sceau. Le cavalier noir. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Alors le cavalier noir, la couleur noire, cela évoque la famine qui gagnera toute la terre. On parle aussi d'une balance. Ce cavalier, il a une balance. La balance est un appareil de mesure. Cela veut dire que la pénurie de nourriture et de ressources naturelles va nécessiter un rationnement très sévère. Cette balance nous indique qu'il va falloir peser, mesurer, compter, économiser. Alors une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé, c'était ce dont une personne avait besoin pour survivre une journée. Un denier, c'était le salaire d'une journée. Ça veut dire qu'il va falloir travailler une journée, une personne devra travailler une journée pour gagner, pour survivre une journée. Lui-même, hein, pas sa famille. Moi, je me rappelle dans les années 60-70 maximum, avec un salaire, il y avait toute une famille qui vivait ici en Belgique. Aujourd'hui, on ne s'en sort pas avec deux salaires. Donc, vous voyez que ça commence déjà. Ici, donc, s'il y a cinq personnes dans une famille, il faudra que chaque personne travaille un jour pour subvenir à son propre besoin. Alors, on a aussi l'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça la perte du pouvoir d'achat. Regardez ce qui se passe en Grèce. Tout d'un coup, ils sont passés d'un niveau ils sont dégringolés. Et ils n'ont plus les moyens d'acheter ce qu'ils achetaient avant. Versets 7 et 8, quatrième saut, ouverture du quatrième saut, le cavalier vert. Alors j'ai dit vert par facilité, mais en réalité, le mot qui est utilisé, c'est plutôt verdâtre. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens et vois. » Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Vous voyez, cette couleur, elle rappelle la pâleur verdâtre caractéristique des cadavres en décomposition. Et on nous dit qu'un quart de la population de la planète va trouver une mort brutale par la guerre, la famine, les épidémies. Regardez déjà aujourd'hui ce qui se passe avec Ebola et toutes les précautions qu'on doit prendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui voyagent de par le monde. Avant, les épidémies étaient confinées parce que les gens ne bougeaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, les gens vont d'un point à l'autre. Et alors, on doit prendre beaucoup de précautions parce que une épidémie peut se répandre mondialement. Alors, pour nous décrire aussi ce qui va se passer demain, Jésus nous dit dans Marc au chapitre 13, verset 19 et verset 20, il nous dit « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Alors, vous voyez que nous sommes loin de Tomorrowland. sommes loin de la joie, de l'exubérance, du plaisir, de la liberté que s'imaginent certains. C'est vrai que tout ça n'est guère réjouissant, je vous l'accorde. Hein. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, c'est dimanche, vous êtes peut-être venus comme ça, vous étiez joyeux ce matin, et puis là je suis en train de vous mettre la dépression. Mais on n'est pas ici pour se raconter des belles histoires. Hein? Wonderland, Alice au pays des merveilles, Pinocchio, Peter Pan, c'est de l'imagination. Ça, c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Alors, en tant que chrétiens, comment devons-nous réagir face à tout cela? Comment devons-nous réagir lorsque nous voyons ce monde aller à sa perte? Est-ce qu'on doit fermer les yeux, faire la politique de l'autruche, mettre sa tête dans le sable? Ou est-ce qu'on doit regarder les choses en face? Jésus nous donne quelques recommandations. Au chapitre 21 de l'Évangile de Luc. Alors, première recommandation, ne pas se laisser séduire. Verset 8. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Non, ça c'est le deuxième recommandation. Donc, première recommandation, ne pas se laisser séduire. La semaine passée, Jacques a parlé des fausses religions, des faux prophètes. Eh bien, c'est à ça que Jésus fait allusion ici. Hein. C'est vrai que quand on prend peur, quand on est effrayé un petit peu, quand on voit toutes ces choses se passer, on peut avoir ce réflexe un peu de s'accrocher à n'importe qui, à n'importe quoi. Et Jésus dit donc, ne pas se laisser séduire. Deuxième recommandation, au verset 9, ne pas être effrayé. Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on ne doit pas être effrayé? Mais d'abord parce que Dieu est au contrôle de tout. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a une impression de chaos. On a l'impression que les choses se déroulent comme ça, d'une manière incontrôlée, d'une manière imprévisible, chaotique, qu'il n'y a pas de plan là-dedans. Et pourtant, il y a un plan. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Ensuite, parce que, en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, nous sommes sous sa protection. Regardez ce qu'il dit au verset 14 et 15. « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Donc, Jésus dit ici que si nous sommes devant des juges, eh bien, il va nous souffler par son esprit ce que nous allons pouvoir répondre. Donc ça veut dire que Jésus ne nous abandonnera pas dans les moments difficiles, qu'il sera toujours avec nous pour nous aider, pour nous soutenir et pour nous guider. Troisième recommandation. Ne pas se laisser distraire, rester vigilant. Faire attention à soi. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. On peut lire même plus loin, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que toutes ces choses, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc prenez garde à vous-même, dit-il, ça veut dire qu'on doit faire attention, se méfier de toutes ces distractions que le monde nous offre, toutes ces distractions organisées par ce monde, par exemple Tomorrowland, des choses comme ça, et qui sont organisées pour nous distraire de la réalité, de la vérité. Dans la Rome antique, on donnait du pain aux gens qui étaient dans le besoin. On distribuait du pain comme ça. Et les jeux du cirque, on organisait les jeux du cirque pour amuser les gens. On disait, qu'est-ce que le peuple a besoin ? Ben, du pain et des jeux. Panem et Circenses, je ne sais pas si je le prononce bien. Et on faisait ça, pourquoi les dirigeants romains de Rome faisaient ça ? C'est parce que l'Empire romain était tellement étendu qu'il y avait des soldats un peu partout dans l'Empire et qu'il y avait très peu de soldats pour s'occuper et faire face à une éventuelle émeute de la population romaine. Alors qu'est-ce que faisait ? On endormait les gens. On leur donnait du pain, on leur donnait de quoi manger, et on les amusait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On nous amuse avec toutes sortes de distractions. Cela veut dire aussi, ce que Jésus veut dire aussi, c'est que nous ne devons pas succomber au plaisir vain qu'offre le monde, mais plutôt chercher la sainteté, afin d'être trouvé digne le moment venu. Ne pas aussi se laisser absorber par les soucis de la vie, au point de négliger notre vie spirituelle. C'est vrai qu'on doit travailler, on a plein de choses à faire, c'est normal, les choses ne tombent pas comme ça. Hein. Mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier que nous devons aussi consacrer du temps à notre vie spirituelle, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à lire la parole et à essayer de grandir avec lui. Quatrième recommandation, verset 28. Alors ici, on termine un peu par une note un peu plus joyeuse, un peu plus optimiste. Levez la tête. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Alors même si tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde et qui préfigure ce qui va arriver demain, même si tout cela nous attriste, nous pouvons être consolés. Parce que ces événements nous confirment que le retour de Jésus est proche et que nous serons bientôt délivrés de ce monde et des ravages du péché. Alors après tous ces événements, la Bible nous dit aussi qu'il y aura un jugement. Pour tous les enfants de Dieu qui se sont repentis, qui ont accepté Jésus comme sauveur, Tomorrowland, ce sera le royaume de Dieu. Qu'en sera-t-il pour tous les autres demain ? Qu'en sera-t-il de vous ? Si Dieu n'est pas encore votre Père, il est votre Créateur, il est le Créateur de tous. Mais tous ne sont pas ses enfants. Il y a une démarche à faire pour devenir enfant de Dieu. Si Dieu n'est pas encore votre Père aujourd'hui, il est temps de prendre une décision. On a chanté tout à l'heure, « Viens, ne tarde plus, adore, viens, ne tarde plus. » Parce que demain, tomorrow, c'est peut-être aujourd'hui, today. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.